J'aimerais demander à chacun de nous de pouvoir adresser cette simple prière au Seigneur. Seigneur, parle-moi, aide-moi à rester attentif alors que ta parole sera prêchée. Seigneur, donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir, ô Dieu, saisir cette parole et la mettre en pratique. Nous n'avons que toi au ciel, nous n'avons que toi sur terre. Quel que soit le besoin dans lequel nous nous trouvons, quels que soient les événements qui entourent notre vie, c'est toujours vers toi, Seigneur, que nous nous tournons. Car nous savons, Seigneur, que tout ce dont nous avons besoin ne peut nous venir que de toi. Ce matin, Seigneur, tu nous as ouvert la porte du sanctuaire. Ce matin, tu nous as accueillis, ô Dieu, de manière tout à fait favorable, exceptionnelle en ta présence. Ce matin, tu nous as donné l'occasion de nous exprimer devant toi, Seigneur, en chantant pour ta gloire, en t'exprimant nos sentiments d'une manière ou d'une autre. Mais alors que nous sommes dans ta présence, tu nous donnes maintenant, Seigneur, l'occasion de nous asseoir à tes pieds. Tu nous donnes l'occasion de pouvoir t'étendre, ô Dieu, une oreille attentive. Tu donnes l'occasion de nous ouvrir à ta parole, cette parole qui est d'une importance inestimable pour nous, car c'est par cette parole, au travers de cette parole, que ton esprit agit en nous, parmi nous et au travers de nous. Et ce matin, notre prière à tous, Seigneur, c'est que de ton trône de gloire, tu nous envoies ta parole. Et que cette parole, Seigneur, puisse toucher nos cœurs, que ne rentre pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu l'auras envoyé parmi nous. Que ce soit pour les besoins physiques de l'homme, que ce soit pour ses préoccupations, Seigneur, spirituelles ou d'ordre philosophique, il n'y a qu'une seule réponse de ta part, c'est ta parole et ta parole seule. Alors, donne-nous, Seigneur, de la manger, de la saisir. Ô Dieu, de nous livrer entre tes mains, afin que par ta parole, tu puisses nous modeler, nous façonner à ton image et nous rendre conformes à toi en toutes choses. Merci, Seigneur, de la répandre maintenant dans nos cœurs. Merci d'ouvrir notre oreille spirituelle et de nous donner cette capacité de la saisir et de la mettre en pratique. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni pour ta parole. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais revenir donc sur le thème du dimanche dernier, à savoir la nécessité d'avoir et de marcher avec une conscience irréprochable, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est une vérité d'une importance capitale, car comme nous l'avons vu et comme nous allons le voir bientôt, eh bien le mystère de la foi est appelé à être conservé dans une conscience pure. Dans une conscience qui est à la fois irréprochable, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi devant les hommes. Et un des auteurs inspirés de la Bible, qui nous a laissé cette parole, nous demandant d'être ses imitateurs comme lui-même l'était du Christ, à savoir l'apôtre Paul, a vécu, mes amis, dans un combat qui consistait en, d'abord et avant tout, à paraître irréprochable devant Dieu, à servir Dieu dans une conscience irréprochable, dans une conscience pure. C'est quelque chose d'important. Et il est donc nécessaire que nous puissions comprendre cela. Donc, notre thème, c'est garder sa conscience pure. Et nous allons relire donc le passage qui a fait déjà l'objet de notre lecture la fois dernière, à savoir la première épître de Paul à Timothée au chapitre 1er. Nous allons lire d'abord le verset 5 et puis nous irons au verset 18 et notre lecture donc s'arrêtera au verset 19. À Timothée, chapitre 1er, verset 5, nous lisons « Le but de cette recommandation, le but de cette injonction, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. » Et verset 18, « La recommandation que je t'adresse, l'injonction que je t'adresse, c'est que Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée, et la conséquence, c'est qu'ils ont fait ainsi naufrage en ce qui concerne leur foi. Combattre le bon combat. Eh bien, nous sommes engagés dans ce combat-là. C'est le combat de la foi, c'est le combat spirituel dont l'enjeu est le salut de nos âmes. Mais dans ce combat-là, nous avons besoin, mes amis, de cet élément essentiel qu'est la foi. Mais la vraie foi, celle qui nous permet d'aller de gloire en gloire, la vraie foi qui nous fait entrer dans l'héritage de Dieu, la vraie foi qui nous rend capables, mes amis, de nous approprier des promesses de Dieu, cette foi qui nous permet d'être agréable à Dieu en toutes choses, cette foi sans laquelle, eh bien, aucune vie n'est possible avec Dieu, eh bien, cette foi-là s'exprime au travers d'une conscience pure, d'une conscience irréprochable. Donc, voyez-vous, mes amis, puisqu'il en est ainsi, donc, nous devrions travailler pour que notre conscience reste et demeure irréprochable, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi devant les hommes, car autrement, si nous ne veillons pas, si nous ne surveillons pas notre conscience afin de la protéger d'éléments nuisibles, d'éléments pathogènes, passez-moi l'expression, eh bien, ces éléments rongeront, cautériseront, altéreront notre conscience et par conséquent, nous finirions par faire naufrage par rapport à notre foi, c'est-à-dire nous finirions par couler. Et parler de couler dans ce domaine, c'est de parler de la ruine de notre vie morale et spirituelle. La nécessité de garder notre conscience pure. Je l'ai souligné la fois dernière, et vous le savez tous, que si nous pouvions résumer toute la Bible en un seul commandement, eh bien c'est la réponse que le Seigneur avait donnée à un scribe qui lui avait posé la question de savoir quel était le plus grand des commandements. Le Seigneur lui a dit, s'adressant à lui, il s'est adressé à tous ceux qui étaient là, c'est que le premier, le plus grand des commandements, c'est que, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le résumé, mes amis, de toute la Bible. Si nous apprenons à aimer Dieu, si nous faisons tout pour aimer Dieu, alors nous aurons accompli ce commandement extraordinaire. Car ce que Dieu attend de nous, c'est que nous l'aimions. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Jésus a dit à ses disciples, à ceci, tous reconnaîtront, tous sauront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns les autres. Donc il n'y a pas de plus grand commandement que celui qui nous demande d'aimer Dieu. C'est le résumé, mes amis, de toutes les prescriptions de la parole de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et si nous arrivons à accomplir cette parole, eh bien nous aurons accompli toute la loi telle que le Seigneur nous a laissée. Mais comment aimer véritablement? Et Dieu et notre prochain, eh bien c'est ici que ce trio magnifique, ce trio splendide devient plus qu'indispensable, à savoir un cœur pur, une bonne conscience ou une conscience pure, et enfin une foi sincère. C'est ce trio-là, mes amis, qui va créer toutes les conditions nécessaires, toutes les conditions favorables pour que l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu, puisse naître dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. En d'autres mots, la conjugaison, la conjonction et l'interaction de ces trois éléments, à savoir le cœur pur, la conscience pure et la foi, une foi sincère, limpide, sans feinte ni hypocrisie, eh bien ces trois éléments-là, s'ils sont présents dans notre vie, Ces trois réalités-là, si elles sont là présentes, elles vont donc créer les conditions qui permettront à l'amour de Dieu de naître en nous. Car pour aimer Dieu, il faut plus que de la bonne volonté. Pour aimer les autres, il faut plus que de la bonne volonté, mes amis. Il faut que Dieu lui-même nous aide à créer ces conditions. Alléluia. Trois conditions, trois éléments fondamentaux, trois éléments essentiels, mes amis, qui constituent la condition sine qua non pour que vous et moi, nous puissions, eh bien, accomplir la loi de Dieu. Et comme nous l'avons vu hier, enfin le dimanche dernier, eh bien, nous n'allons pas parler du cœur pur, mais plutôt nous attarder sur les deux autres éléments qui vont toujours ensemble, à savoir la conscience pure et la foi sincère. Ces deux éléments, mes amis, se conjuguent toujours ensemble. Ces deux éléments vont toujours ensemble. En d'autres mots, il est impossible de mener une vie de foi. Il est impossible, par la foi, ou de marcher par la foi, d'aller de gloire en gloire, si, mes amis, on ne vit pas avec une conscience qui est pure et reprochable aux yeux de Dieu et devant les hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. La foi et la conscience pure vont de pair. Nous trouvons ce rapport étroit. Nous trouvons ce lien vital, ce lien essentiel entre, d'un côté ou d'une part, la bonne conscience, et nous allons voir comment rendre notre conscience bonne, une conscience pure et le mystère de la foi. En d'autres mots, une foi forte qui nous permettra ou qui nous permet de déplacer les montagnes, une foi forte qui nous permet de marcher de manière triomphante, mes amis, de nous approprier régulièrement des promesses de Dieu, cette foi-là est associée impérativement à une bonne conscience qui est tout aussi forte. Alléluia. En d'autres mots, pendant que nous cherchons à grandir, à croître dans la foi, nous devrions également veiller sur notre conscience et ne pas donner l'occasion à l'ennemi, ne pas donner l'occasion au moi de pouvoir souiller notre conscience, de pouvoir, eh bien, semer toutes sortes de sentiments négatifs qui attristeront le Saint-Esprit en nous et qui nous amèneront dans un état de culpabilité, même refoulé. Voyez? Et quand on est dans un tel état, on ne peut pas s'attendre, mes amis, à de grandes choses de la part de Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Voilà pourquoi nous trouvons dans la parole de Dieu tant de recommandations qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire travailler dans le sens de la purification de notre conscience, travailler dans le sens de débarrasser notre conscience des œuvres mortes, de tout sentiment négatif, de tout ce qui pourrait le précipiter dans une sorte de catalepsie ou autre, c'est-à-dire dans un état d'insensibilité. Et quand on atteint un tel état, alors, mes amis, on ouvre la porte à toutes sortes de choses négatives. Si une foi forte est impérativement associée à une bonne conscience tout aussi forte, eh bien, inversement, une foi faible engendre une conscience affaiblie. Voyez-vous, une conscience qui amène les gens à mener une vie superficielle. Ils ont tout le temps le nom du Seigneur dans la bouche. Ils sont toujours présents au culte, ils lèvent les mains, ils font tout ce qu'ils veulent, ils chantent Alléluia, il y en a même qui parlent en langue, mais en réalité, dans leur cœur, leur conscience leur reproche beaucoup, beaucoup de choses. L'apôtre Paul, comme nous l'avons vu, a été un homme qui a tout fait pour garder sa conscience pure. Il s'est défendu, que ce soit devant les hommes, d'avoir, que ce soit vis-à-vis du Seigneur lui-même, de le servir avec une conscience pure. Devant le gouverneur Félix, eh bien, il n'a pas hésité à dire à cet homme, en disant ce pourquoi je m'efforce, je m'évertue, je fournis des efforts, je m'exerce. Donc, Je m'efforce de garder une conscience irréprochable, puisqu'on l'accusait faussement par ses frères juifs, de garder une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Voyez-vous? Devant Dieu et devant les hommes. Devant le Sanhédrin, cette instance qui gérait les affaires aussi bien religieuses que civiles en Israël à l'époque du judaïsme, eh bien, il n'a pas hésité non plus à dire à ses frères juifs que c'est avec une conscience irréprochable, c'est avec une bonne conscience que je me suis conduit envers Dieu. Et à Timothée, il dira, « Le Dieu que je sers avec une conscience pure. » Mes amis, la pureté de la conscience, eh bien, est quelque chose, est une priorité, et quelque chose après lequel nous devrions aspirer absolument. Car comme la Bible dit, le mystère même de la foi, eh bien, ne peut être conservé, ne peut être gardé que dans une conscience pure. Alléluia. Ça, vous savez très bien que, mes amis, nous ne pouvons marcher avec Dieu que par la foi. Nous ne pouvons lui être agréables que par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans notre vie sans qu'il ne le fasse en réponse à notre foi. En réponse, mes amis, à notre capacité à croire, non seulement dans la parole de Dieu, mais à croire Dieu lui-même. Voyez-vous? Donc, si nous voulons que cette foi grandisse, alors nous avons tout intérêt à conserver le vase pur, le vase de la conscience. Car c'est dans un vase pur, car c'est dans un vase, si vous voulez, vidé du moi abject, du moi rebelle, du moi qui convoite, cupide, tout ce que vous voulez, c'est dans un vase pareil, un vase de conscience pareil, qu'alors la foi va naître, mais aussi va croître. Alléluia. Mais nous sommes aussi engagés dans un combat. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il encourage Timothée à combattre le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Car, ajoute-t-il, cette bonne conscience, cette conscience pure, certains, hélas, certains, malheureusement, sont arrivés à l'abandonner, sont arrivés à la répudier, disent certaines versions, sont arrivés, mes amis, à la rejeter. Et après avoir rejeté cette bonne conscience, ils ont fini par faire naufrage par rapport à leur foi. Ils ont fini par couler, mes amis, par rapport à leur foi. Et se sont retrouvés avec une religion formaliste, une religion fondée uniquement sur des traditions. C'est le risque que chacun de nous court, de pouvoir un jour faire naufrage à la foi. Et je vous dirais que certains ont déjà fait naufrage à cette foi. Ils ont abandonné l'essence même de la foi, la substance qu'est la foi, pour se retrouver avec une carapace vide, voyez-vous, avec un vase qui est là, mais dans lequel il n'y a plus rien. C'est donc notre responsabilité de pouvoir servir le Seigneur de manière irréprochable, non seulement devant lui, mais aussi devant les hommes. Qu'à chaque fois que nous nous tenons devant Dieu, eh bien que nous ne nous reprochions de rien. Et puis ensuite, quand nous nous tenons les hommes, devant les hommes, que là aussi, mes amis, nous ayons une conscience irréprochable. Mais cette conscience irréprochable, mes amis, n'arrive pas au hasard dans chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous tomber sur la tête, comme ça par hasard, après un long jeûne, je ne sais de combien de jours, après qu'on vous ait imposé les mains, et puis tout d'un coup, eh bien, la conscience pure tombe sur vous, fini, formidable. Ah, ma conscience est devenue pure. C'est donc un travail de tous les jours. Car nous allons voir, il y a des choses de nature à souiller notre conscience. On en a parlé tout au long de la semaine, à l'occasion de notre séminaire consacré à l'esprit de Bélial. Nous avons vu comment cet esprit arrive à créer un environnement malsain. Un environnement, qui empêche à l'action de Dieu de s'épanouir au milieu de nous. Voyez, il travaille pour souiller notre conscience. Et si nous ne faisons pas attention, si nous n'alimentons pas régulièrement notre conscience, si nous ne la mettons pas de manière régulière en face de la présence de Dieu, de la pensée de Dieu, cette conscience, eh bien, sera, si vous voulez, façonnée par d'autres pensées que celles de Dieu. Elle réagira en fonction de ces pensées-là. Car une conscience s'éduque. Voyez-vous? Elle réagit en fonction des impulsions, des stimuli qu'elle reçoit. C'est ce qui fait que certaines personnes, eh bien, commettent des péchés abominables, mais leur conscience ne leur accuse pas. Ils ont été façonnés par leur culture. Voyez-vous? Leur conscience a été éduquée d'une certaine manière. Et quand ils agissent de cette manière-là, eh bien, ils ne se reprochent de rien. Voyez? Il y a des gens qui sont malades, des psychopathes ou des sociopathes, qui tuent de sang-froid et qui n'éprouvent aucun sentiment, aucune émotion. Voyez-vous? C'est souvent des gens qui viennent des familles dysfonctionnelles, des gens qui n'ont pas connu l'amour, le vrai amour paternel et maternel, qui soit ont fait l'objet de toutes sortes de maltraitances, ont connu toutes sortes de violences dans leur prime enfance, et ces gens finissent par développer une personnalité criminogène. Passez-moi l'expression. Oui. Ils finissent par développer une personnalité asociable et prêt à tuer. Ce sont tous ces psychopathes qui sévissent un peu partout dans le monde. Donc, nous avons tout intérêt à garder notre conscience pure. Sinon, nous risquons de tuer cette conscience. Et en la tuant petit à petit, eh bien, nous ouvrirons nous-mêmes des brèches à notre barque. Et lorsque les brèches, eh bien, sont là, vous n'aurez pas besoin de dire à l'eau de rentrer dans votre barque. Ça sera une conséquence évidente, voyez-vous. Ça sera une conséquence tout à fait normale, un corollaire, que ces eaux rentrent dans votre barque pour finalement vous entraîner dans le naufrage. C'est donc l'image que j'ai prise le dimanche dernier de cet homme qui en avait marre d'entendre son chien aboyer tout le temps, alors qu'il avait besoin de repos, alors qu'il avait besoin de dormir tranquillement, n'en pouvant plus. À un moment, il sort, il prend sa carabine, son fusil, et achève son chien. Voyez? Et combien, mes amis, réagissent ou agissent de la même manière vis-à-vis de leur conscience? La conscience vous accuse. Au lieu simplement de vous tourner vers le Seigneur, mais vous essayez de trouver toutes sortes d'excuses. Vous essayez de trouver des circonstances atténuantes, des explications qui ne tiennent pas debout. Voyez? Vous commencez à trouver tout normal. Eh bien, c'est dû au fait qu'avec le temps, votre conscience, n'étant plus éclairée par la parole de Dieu, eh bien, a pris un chemin ténébreux, un chemin qui l'a conduite petit à petit dans un tunnel sombre. Et dans ce tunnel-là, la conscience, a commencé à mourir petit à petit, la vraie conscience, pour se retrouver avec une conscience cautérisée. Donc, elle peut s'altérer, cette conscience. Elle peut être rendue insensible. Voyez-vous, cette conscience. Donc, nous avons tout le devoir de pouvoir garder notre conscience vivante. Alléluia. Afin, à chaque fois que nous enfreignons la loi de Dieu, que cette conscience nous interpelle. À chaque fois que nous attristons l'Esprit de Dieu, en ouvrant la porte à toutes sortes de sentiments négatifs, des sentiments de jalousie. À chaque fois que nous versons dans la calomnie, mes amis, dans la cupidité ou dans la convoitise, eh bien, qu'à chaque fois le Saint-Esprit nous interpelle et nous dise, attention, là ça ne va pas. Que notre conscience, à l'instar du chien, du berger qui aboie lorsqu'il voit des loups ou des bêtes sauvages s'approcher du troupeau, eh bien que notre conscience continue à nous interpeller à chaque fois
que nous piétinons la parole de Dieu, à chaque fois que nous allons à l'encontre de cette parole. On peut donc la tuer. Comment? En la privant de plus en plus de la présence de Dieu. Lorsqu'on dit, on demande aux gens, mes amis, d'être réguliers aux activités de l'Église, lorsqu'on demande aux gens, mes amis, d'avoir une vie de prière régulière, ce n'est pas seulement parce que cela fait plaisir à Dieu, mais c'est aussi parce que c'est vital pour nous. Quand nous avons une vie de prière régulière, eh bien, à chaque fois que nous entrons dans la présence du Seigneur, nous permettons à sa présence de pouvoir, eh bien, rendre notre conscience de plus en plus vivante. Alléluia. La rendre capable. Capable d'être en phase avec lui. Capable de réagir à chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée qui nous visite. Voyez. Autrement, nous risquons, tout en venant à l'église tous les jours, de continuer à entretenir des sentiments négatifs dans le cœur. C'est ainsi qu'on trouve, même parmi les chrétiens, des gens abominables. Voyez, comme nous l'avons vu tout au long de la semaine. On trouve parmi les enfants de Dieu certaines pratiques répréhensibles. Les gens font des choses tout en sachant que ces choses sont mauvaises. Voyez, il y en a qui ont tué leur conscience. C'est ainsi qu'écrivant aux Corinthiens, Paul leur dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, il dit, mais c'est ainsi que nous apprenons qu'il y a parmi vous une inconduite sexuelle, une inconduite telle qu'on n'en trouve même pas chez les païens. Et comme je vous l'avais dit, le terme traduit dans nos versions françaises par inconduite, c'est le terme pornéa qui a donné pornographie. On en a parlé. Voyez. Combien peuvent se tenir devant Dieu sans que leur conscience leur reproche que hier, toute la nuit, devant leur écran téléviseur? Comment voulez-vous, mes amis, marcher avec une telle conscience et prétendre aller de gloire en gloire? Ce sont des choses, mes amis, qui tuent la conscience. Toutes ces pratiques, toutes ces choses, ces images obscènes, scabreuses, impures, finissent par souiller nos pensées et par altérer notre conscience. Et commencer à trouver normal certaines choses. On tripote un peu à gauche, ou on tripatouille. Des documents comptables de sa société. Voyez, on dit, mais bon, faisons ceci. Le patron ne se rendra pas compte. Mais si le patron ne peut pas se rendre compte parce que tu as l'art de manipuler les chiffres. Tu as l'art, tu maîtrises très bien tout ce qui est comptabilité et tout ça. Il y a au moins un au-dessus qui lui voit tout. Qui voit et observe toutes ces manœuvres obscures. Toutes ces manœuvres charnelles. Et lui qui voit tout, eh bien, ne peut pas accepter cela. Et en le faisant, eh bien, tu es en train toi-même de contribuer à tuer ta conscience, à la rendre, mes amis, insensible à Dieu. Voyez, combien de gens ont quitté l'église? Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas accepter, tolérer qu'on épingle, qu'on parle de certains péchés. Je me souviens, il y a des années d'ici, un pasteur était de passage, nous nous sommes vus quelque part, dans un autre pays, nous étions tous appelé à intervenir pour prêcher, et je me souviens, je parlais avec lui, et il me dit, mais vous savez, pasteur, il faut arrêter un peu de prêcher contre tous ces Congolais qui vont à l'étranger, qui mentent, qu'ils ont des problèmes avec le gouvernement, qu'ils avaient giflé Mobutu et tout ça. Oui, pour essayer de trouver un séjour. Il y a la misère au pays, les gens fuient. Vous vous rendez compte? Quelles que soient les raisons, nous devons toujours privilégier la vérité. Car le mensonge, tôt ou tard, finit toujours par créer une situation de déséquilibre en nous. Donc il ne fallait plus prêcher. Donc on trouvait normal que quelqu'un invente toute une histoire Voilà, j'ai fui mon pays parce que le chef de l'État m'avait pris ma femme et tout ça. J'ai fui mon pays parce qu'à un moment, j'ai manifesté pour la liberté d'expression, d'opinion et tout ça. Et puis un policier est venu, il m'a pris, on m'a amené dans un truc obscur où je suis resté 3 mois, je ne savais pas où. Et puis ceci, j'ai fui, j'ai pris la pirogue, etc. Et puis voilà, je suis là. Il y a des gens. Je l'ai dit parce que, de l'autre côté, j'en suis entouré d'avocats qui me racontaient tout ça. Des cabinets spécialisés dans ce genre de problèmes. On vient toujours, on invente. Allons-nous laisser les gens dans le mensonge pour que le mensonge leur permette de faire quoi que ce soit? Pas du tout. On ment, et à force de mentir, eh bien, dans un premier temps, notre conscience nous interpelle, n'est-ce pas? Mais on fait taire la voix. On dit, comment veux-tu que je retourne au pays? Je dois tailler la pierre, comme on dit. Mabé Taliban. Je dois tailler la pierre. C'est-à-dire, je dois me débrouiller. On constitue le dossier, on ment, la conscience vous interpelle. Vous fermez les oreilles. Vous prenez le dossier, vous allez dans un cabinet d'avocat. Mais l'avocat lui fait son travail. Hein? Ouais. Vous répétez votre histoire. Et puis l'avocat vous aide même, hein, certains avocats. Il dit non, il ne faut pas dire ça. Parce que tel avait dit, son dossier n'est jamais passé. Voilà. Toi dis que tu viens du Kivu. Parce que, voilà, change de nom. Non, mais je connais des gens qui ont changé et des noms et des dates de naissance. J'en ai connu un qui est décédé. J'ai dit, ma femme, oh, il avait 50 ans. Elle dit, oh, comment? Il a tripoté la date. Oui, oui. Même son nom. Tu retrouves un homme baboula. On change de nom par tous les moyens. Il y en a beaucoup. Voyez. Et on laisse les gens dans leur mensonge. On ne peut pas leur dire, parce que si on leur dit, ben, ils seront obligés de retourner au pays. Et retournant au pays, ils vont vivre. Mes amis, le ciel ne se trouve ni en Europe, ni aux États-Unis. On peut être heureux tout en vivant à Massimanimba. On peut être heureux. Le bonheur, c'est d'abord une condition intérieure. Il y a des gens qui vivent en hémisphère nord qui sont foncièrement malheureux. C'est d'ailleurs en hémisphère nord qu'on trouve le nombre de suicides le plus élevé. Vous trouvez même des ados qui se suicident. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore entendu une seule fois, à moins que, bon, comme je ne sors pas bon goût, que 2 ou 3 adolescents se sont donné rendez-vous sur le pont quelque part pour se jeter dans le vide, mourir. Mais c'est dans des sociétés qui baignent dans l'exubérance matérielle que ces choses arrivent. Une fois, j'étais de passage à Toronto, on m'a montré un pont, et on l'appelait le pont du suicide ou quoi là. Effectivement, on pouvait voir qu'il y a des filets qui avaient été posés entre le fond, je crois qu'un petit cours d'eau qui passait, et le parapet du pont, un filet pour empêcher aux gens de sauter et de se tuer. Oui, on pouvait voir ce filet-là, parce que c'était le pont du suicide. Dès que quelqu'un avait marre, je vais mettre, il va là-bas, et il meurt. Oui. Donc, notre conscience a besoin, mes amis, de rester en contact permanent avec le Seigneur. Donc, on peut tuer sa conscience. Oui. Tu entretiens une relation régulière. Le Seigneur t'interpelle. Tu essaies de trouver, ah Seigneur, pardonne-moi. Mais ma femme là, vous pensez que le Seigneur tiendra compte de cette excuse-là, ma femme-là. Ouais. Si tu continues, tu arriveras à un moment où tu trouveras normal. Et puis à force d'entendre des messages qui te mettent au pied du mur par rapport à ton choix terrible de tromper ta femme ou ton mari, à force d'entendre ce message, tu vas même finir par quitter l'église. Ah non, je m'en vais à la borne, il n'y a pas la puissance. Voilà, les gens ne tombent pas. Vous voyez, à la borne, on ne donne pas l'huile d'olive aux gens. Vous pensez que l'huile d'olive vous mettrait à l'abri de l'immoralité? Vous pouvez vous retrouver dans les bras d'une prostituée en ayant une bouteille d'huile d'olive autour de vos reins. Nous devons donc garder notre conscience pure. Oui. Ce n'est pas en quittant l'Église. Il y a des vérités que nous entendons qui nous font mal. Peut-être à l'instant même où je prêche, le Seigneur est en train de secouer ta conscience. Eh bien, laisse-toi secouer par Dieu. Car mieux vaut que Dieu te secoue une fois, tu te repens, que de résister et d'être secoué et bercé en enfer un jour. Et là, ça serait trop tard. Voyez? Donc, nous devons lutter contre l'insensibilité totale de la conscience. Et c'est le péché qui rend insensible nos choix qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, nos décisions qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, eh bien tout cela, mes amis, vont nuire à notre conscience, vont la cautériser, voyez-vous, vont la plonger dans une sorte de torpeur, de léthargie morale et spirituelle, où elle ne réagirait plus. C'est ainsi que vous verrez des gens faire des choses, voler, voyez, et ne rien ressentir. Ouais. Même parmi les chrétiens. Au point où il y a des entreprises, mais je vous ai déjà raconté ça. Il y a des gens qui ont de la peine à trouver des gens sincères, des gens honnêtes, à qui confier des responsabilités. C'est quand même terrible. Dans une ville comme Kinshasa, où il y a, dans chaque commune, il n'y a pas moins de 50 églises. C'est quand même dommage que dans une ville comme la nôtre, qu'il y ait des entreprises qui n'arrivent pas à trouver des gens sérieux, des gens responsables. Voyez. Il y en a qui ont engagé des pasteurs, qui ont été déçus. Le fait d'être pasteur ne vous met pas à l'abri. C'est pourquoi il ne faut pas trop regarder au titre. Ce qui fait la valeur de quelqu'un, c'est la condition de sa conscience. Alléluia. Nous devons la garder pure. Car plus on s'éloigne de Dieu dans ce choix, plus on s'éloigne de Dieu dans sa manière d'être et de faire, dans les décisions qu'on prend, plus notre conscience deviendra de plus en plus insensible. Insensible à la foi de Dieu, insensible au péché, et on trouverait normal de faire certaines choses. Et quand on atteint un tel niveau, je peux vous assurer que c'est un niveau très dangereux. C'est d'ailleurs à ce niveau-là, je ne sais pas si je l'ai dit le dimanche dernier, qu'on attrape le syndrome d'excusite, c'est-à-dire de tout excuser. Oui. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ah oui, mais vous savez, ok, très bien. À chaque fois, oui, on trouve des excuses. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'excuses. Avec Dieu, on doit reconnaître son mal. On doit reconnaître sa faiblesse, voyez-vous. Il y a des gens qui viennent de milieux où ils ont été accueillis par l'immoralité, où ils ont été façonnés par l'immoralité, où la culture tout entière est tournée vers l'immoralité. Et des gens comme ça, ils grandissent avec une conscience cautérisée, une conscience insensible à tout ce qui est moral. Il y a des gens qui ont été élevés dans le fait que, voilà, ils appartiennent à l'ethnie la plus noble qui soit sur cette terre. Vous voyez? Et qu'eux, ils ont le droit de diriger, le droit de tuer les autres. Et ces gens-là n'éprouvent aucun sentiment. Vous avez déjà vu, ou vous avez vu ces images ignobles, barbares, des gens qui prétendent croire en Dieu et égorger d'autres. Leur couper carrément la tête et tenir la tête. Vous trouvez normal? Eh bien, là, il n'y a plus de conscience. Car même un singe, duquel certains prétendent qu'ils descendent, ne pourraient jamais faire ça. Voyez-vous? Oui, on peut tuer la conscience et se retrouver à un niveau presque bestial. Oui. Il y a des gens qui pensent qu'en buvant le sang de quelqu'un, ils deviendraient plus forts, plus puissants. Et c'est comme ça qu'on trouve, je ne sais pas si ça existe encore, mais dans certaines sectes mystiques, dans certaines sociétés ésotériques, mystiques, etc., il y en a qui croient dans ces histoires que lorsqu'on tue quelqu'un, on peut s'approprier de sa puissance. Mes amis, à force de s'éloigner, nous risquons de tuer notre conscience. et finir par faire naufrage par rapport à notre foi. Voyez? Et quand nous parlons de nous éloigner de Dieu, eh bien nous parlons également de nous éloigner de sa parole. Combien aujourd'hui, mes amis, ont rejeté la parole telle que nous l'avions reçue de la part des apôtres et se retrouvent aujourd'hui avec des révélations extra-bibliques. Combien ont rejeté la doctrine des apôtres? Mes amis, tout ce qui ne vient pas de Dieu, quelle que soit sa forme, ne peut que contribuer à l'endormissement de notre conscience. Ça peut être une fausse prophétie, eh bien, contribue à la mort de notre conscience. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui peut nous rendre vivants, alléluia, qui peut nous donner la capacité de réagir au mal. À chaque fois que le mal se pointe, eh bien, la conscience se met à aboyer comme un chien qui nous met en garde, qui a là un danger. Alors, n'essayons pas d'étouffer la voix de la conscience. Voyez, soyons extrêmement prudents. Car si nous ne faisons pas ça, si nous laissons le monde éduquer notre conscience, nous trouverions normal de faire certaines choses. Si nous laissons, c'est là d'ailleurs que les parents, nous devrions être très vigilants par rapport à nos enfants. Lorsqu'ils vont sur Internet, qu'est-ce qu'ils voient? Si nous laissons Internet avec ces images mauvaises ou autres, certes, il y a des bonnes choses sur Internet, mais il y a aussi de très mauvaises choses sur Internet. Eh bien, si nous laissons nos enfants, nos jeunes, aller sans aucun contrôle parental, nous risquerions un jour, mes amis, de le regretter. Car tout ce que nous faisons, eh bien, est toujours le produit de nos pensées. Et l'ennemi commence par corrompre nos pensées, par des images obscènes, comme je le disais, des images impures, par des choses qu'on entend, des insanités, des choses infâmes. Eh bien, ces choses finissent par altérer notre discernement spirituel et moral, finissent par nous rendre insensibles par rapport à ces choses-là. Mais laissons Dieu façonner notre conscience, alléluia, en nous nourrissant régulièrement de la parole de Dieu. Nous devons la manger. Je bénis le Seigneur de ce qu'à chaque séminaire, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Ils viennent pour être enseignés. C'est l'enseignement de la parole, mes amis, qui va permettre à notre conscience de rester de plus en plus sensible au péché, aux différentes informations, aux différentes pensées qui nous assaillent et qui essayent par tous les moyens de nous précipiter dans le péché. Soit notre conscience est façonnée par la parole de Dieu, soit elle est façonnée par l'éthique humaine, par l'éducation humaine. Voyez-vous? Mais le Seigneur, que le Seigneur nous aide, non seulement que nous nous exposions davantage à sa parole, de manière directe, en l'écoutant comme c'est le cas pour le moment, en la méditant seul chez nous à la maison, en faisant ceci ou en faisant cela, mais nous devrions aussi faire attention quant aux gens avec qui nous sommes tout le temps. Car l'homme ne vit pas en vase clos. Voyez? L'homme est en contact, c'est un être sociable. Mais nous devons faire très attention quant à la manière dont nous gérons notre sociabilité. Qui est avec nous? Qui est appelé à marcher avec nous? C'est ce que nous avons vu avec l'esprit de Bélial, oui ou non? L'esprit de Bélial, mes amis, a frappé dans l'entourage de Saül. Dieu lui a donné l'onction pour être roi d'Israël. Dieu lui a donné l'onction pour diriger le peuple d'Israël, le conduire dans le combat. Et Dieu a touché aussi des gens pour qu'il accompagne Saül. Alléluia. Mais la Bible précise qu'il n'y a pas eu que des vaillants hommes, de gens que Dieu avait touchés. Il y a eu aussi des espèces de ramassis, des fils de Bélial, qui ont été aussi, qui se sont retrouvés dans l'entourage. Et ce sont ceux-là qui ont commencé à le mépriser, à dire des propos du genre, tiens, qui est-il lui? Il vient de la petite tribu de Benjamin. Comment Dieu peut choisir quelqu'un comme lui afin qu'il préside à notre destinée, etc. Voyez? La compagnie, mes amis. Si nous fréquentons des gens sans morale, des gens grossiers, des gens qui ne peuvent pas dire un mot de leur bouche sans que quelques insanités sortent, si nous fréquentons des gens comme ça, eh bien, nous allons nous-mêmes aussi contribuer à rendre notre conscience insensible. Mais si nous fréquentons les gens qui excellent dans la sainteté, alléluia, les gens qui marchent avec le Seigneur, nous allons entendre de bonnes choses. Et ces bonnes choses vont avoir un impact positif sur notre conscience. Alors, regardons avec qui nous marchons. Regardons, mes amis, qui occupe telle ou telle autre place dans notre entourage. Si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous risquons d'être corrompus par la mauvaise compagnie. Nous finissons par trouver certaines choses normales. Voyez, il y a des gens qui étaient très engagés, très fidèles au Seigneur, mais qui, à force de fréquenter des gens qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne, ont fini même un jour à douter. À douter. Voyez? Et à essayer de rejeter. Pendant que je lui parle, j'ai lu quelque part l'histoire de quelqu'un qui a travaillé avec Billy Graham. Ils ont travaillé ensemble dans les années 50 et tout ça. À l'époque, un jeune homme très engagé, etc. Et avec le temps, il a été gagné par toutes ces thèses évolutionnistes. Vous voyez, à force de fréquenter certains milieux, jusqu'au jour où il a tourné le dos à son ami Billy Graham et a rejeté la foi. A même à se mettre à combattre la foi chrétienne. L'homme qui écrit cette histoire, c'est quelqu'un qui s'est converti alors que lui aussi était athée. Alors il a écrit un très bon livre, enfin il a écrit plusieurs livres, c'est un Américain, avec une approche très apologétique de la défense de la foi. Lui-même, eh bien, il était passé par tout ça, il s'était égaré dans le méandre de l'évolutionnisme, et puis finalement, Dieu l'a rattrapé par sa femme. Alors il a mené une enquête, il a été voir cet homme, il l'a retrouvé au Canada. Quand il est arrivé au Canada, cet homme-là qui avait rejeté la foi, était, je crois que maintenant il est même mort, parce que quand il a écrit le livre, c'est au milieu des années 2000 ici, ou 2005. Eh bien, quand il l'a retrouvé au Canada, c'était un homme affaibli par la maladie. Voyez? Quand l'homme lui a ouvert la porte de son appartement, lui-même dit, ben, j'avais de la peine à le reconnaître. Il avait rejeté la foi parce qu'il s'est retrouvé dans des milieux où le jeune est critiqué de la foi chrétienne. Oui, mais l'homme descend du singe. Ah oui, mais vous savez, la foi, votre foi est irraisonnable. Ah oui, mais vous savez, la foi, c'était pour le Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous vivons une époque du postmodernisme. Vous voyez? Et puis, on rejette petit à petit, on laisse toute cette influence darwinienne marquer le pas sur votre foi. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des gens qui, au départ, étaient très chauds. Et puis un jour, hop, ils ont rejeté la foi. Ou même d'autres qui étaient dans nos institutions bibliques, formés dans des écoles bibliques, des assemblées de Dieu. Un avait été formé là chez nous au CTS, en Belgique. Après, il est parti, comme il voulait des diplômes, il est allé dans une faculté de théologie protestante. Et là, il a fini par rejeter même l'héritage de la Pentecôte. Vous voyez, le milieu joue beaucoup, mes amis. Alors, soyez avec des gens qui vont vous aider à prendre conscience de vos faiblesses et qui vont vous aider, par la prière, par des conseils, à vous débarrasser de tout cela. Alléluia. Donc, nous avons besoin, frères et sœurs, de mettre notre conscience de manière permanente en contact avec la parole de Dieu. Cette parole est extraordinaire. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut multiplier les contacts avec cette parole. Quand il y a des séminaires, eh bien faites-vous violence, venez écouter la parole. En semaine, si vous avez le temps, venez mes amis. Quand nous vous demandons de venir, ce n'est pas simplement parce que nous voulons que toutes les places soient occupées, mais c'est d'abord avant tout pour votre bien. Car si vous n'êtes pas façonné par la parole de Dieu, si votre conscience n'est pas modelée par la parole de Dieu, si elle n'est pas mise constamment sous les phares de la parole de Dieu, elle finira par s'obscurcir. en étant en contact permanent avec toutes ces pensées impures qui nous viennent de partout. Voyez? Donc, nous devons avoir une vie qui nous permette de multiplier de manière constante, eh bien, nos contacts avec le Seigneur, que ce soit par là des moments de prière personnels à la maison, en famille, en couple, que ce soit ici à l'église, à l'occasion de toutes les réunions que nous avons ici chez nous, que ce soit à l'occasion d'un culte comme celui-ci, saisissez toutes les occasions pour pouvoir vous exposer à la parole de Dieu. C'est elle, elle seule, qui a la vertu, qui a la capacité, qui a le pouvoir de, mes amis, de façonner ou de rendre sensible votre conscience, de la rendre pure en la débarrassant de toute œuvre morte. Et votre conscience étant de plus en plus purifiée, votre foi grandira. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons veiller, mes amis, sur notre conscience. Ne pas laisser des sentiments de jalousie, des sentiments impurs, des pensées obscures. Ne pas laisser la calomnie, la convoitise, le mépris, mes amis, prendre place en nous. Ça, ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit et qui contribuent à la mort de notre conscience. Mais si nous laissons la pensée de Dieu occuper toute la place dans nos pensées, si nous laissons les sentiments de Dieu emplir nos cœurs, eh bien, tout cela aura un impact positif. Ça permettra à notre conscience d'être de plus en plus sensible. Ainsi, nous comprendrons le sens de la pureté, pourquoi nous devons nous garder purs, pourquoi nous devons veiller à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, pourquoi est-ce que nous devons combattre tout sentiment de calomnie, tout sentiment d'animosité envers tel ou tel autre frère ou sœur. Il ne faut jamais laisser ce genre de sentiments prendre racine en vous. Ils contribueront à la mort de votre conscience. Vous ne pouvez pas mépriser quelqu'un et s'attendre à ce que Dieu vous bénisse. Car Dieu nous aime tous. Même l'homme qui vit comme un animal, entre guillemets, est aimé de Dieu. Et nous n'avons pas nous n'avons pas d'excuses ni de raisons de le mépriser, mais plutôt de prier pour lui et de tout faire pour que cet homme sorte des griffes du diable et qu'il vienne au Seigneur. Alléluia. Alors, mes amis, gardons notre conscience pure en l'exposant régulièrement à la parole de Dieu. Gardons notre conscience pure en nous débarrassant de tout sentiment mauvais. Ne les laissons jamais nicher en nous, ces sentiments mauvais. S'enraciner dans nos cœurs. Ils finiront par empoisonner notre cœur et par conséquent à diminuer très sensiblement la sensibilité de notre conscience. Alors je voudrais que nous inclinions pendant un moment nos têtes dans la prière, que chacun de nous se mette devant le Seigneur et qu'il puisse réagir par rapport à ça. Où en es-tu avec ta conscience? Est-ce que ta conscience te reproche ceci ou cela? As-tu une discipline au niveau de tes pensées? As-tu une discipline dans ta vie de tous les jours? Es-tu de ceux qui passent tout leur temps à parler du mal des autres, à regarder des images obscènes? Toutes ces choses, mes amis, souillent la conscience et la rendent insensible à la vérité de Dieu. Et petit à petit, elles amènent la conscience dans un état de léthargie et de mort. Et lorsque la conscience, eh bien, est rejetée, elle entraîne le naufrage par rapport à notre foi. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, dans une conscience qui est donc irréprochable, non seulement devant toi, mais aussi devant les hommes. Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions comprendre la nécessité d'exposer notre conscience régulièrement à ta pensée, régulièrement à ta présence, car c'est seulement ta présence et ta présence seule qui a cette capacité, cette vertu de rendre vivante notre conscience, de la débarrasser de toute œuvre morte, de la débarrasser de toute souillure, de toute impureté morale et spirituelle, Seigneur, et d'avoir avec nous une conscience de plus en plus pure, une conscience de plus en plus irréprochable à tes yeux. Seigneur, aide-nous, car dans ce domaine, nous avons besoin de ton soutien. Combien de fois, ô Dieu, nous nous sommes laissés aveugler par nos sentiments égoïstes, par nos sentiments, Seigneur, charnels, et nous avons fini par aller à l'encontre de ta volonté. S'il te plaît, pardonne-nous, Seigneur. Tu connais ceux qui souillent leurs pensées. par toutes sortes de choses, Seigneur, négatives, par ceux qui passent leur temps, ô Dieu, à semer ce qui est négatif, veille leur pardonner et donne-leur désormais de rechercher la pureté au niveau de la pensée, la pureté au niveau des sentiments, la pureté dans notre marche avec toi. Seigneur, merci. Merci pour tout. Tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous parles de cette manière, car tu voudrais que nous continuions notre marche avec toi, cette marche par la foi, cette marche glorieuse. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu as mis le doigt là où il fallait, afin que, Seigneur, certains puissent se repentir et réaliser la nécessité de garder leurs pensées pures. Seigneur, merci pour tout ton amour envers nous, envers la borne. Seigneur, envers ton Église un peu partout à travers le monde. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Veille également, alors que nous avons nos têtes baissées devant toi, Seigneur, venir ce moment réservé aux dieux, aux offrandes, aux dîmes. Quelle grâce, quel bonheur et quel privilège de pouvoir soutenir ton œuvre d'une manière ou d'une autre par le produit de notre travail, par le produit de nos affaires. Seigneur, bénis ce service et qu'il puisse servir à ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le nom du Seigneur.